par les gens qui vous diront non, je me suis jamais googlisé, sont des immenses menteurs. Comme tout le monde, ça m'arrivait de taper mon nom, de lire des horreurs et de me dire waouh, c'est ça qu'on pense de moi. Mais après, ça dure 2 minutes et ça a très vite passé. Heureusement, je n'ai pas passé mon après-midi sur attention, Alexa du 32 a dit que j'avais des grandes dents. Ça fait 31 ans que j'ai des grandes dents, je ne l'ai pas découvert grâce à Alexia, donc ça va. Mais par contre, c'est pour ça que ma vie, elle reste privée. C'est parce que si d'un coup, ça touche quelqu'un d'autre que moi, là, je me connais, ça, je vais vraiment, vraiment mal le prendre.
Une échappée avec Adèle Exarchopoulos, c'est Totemic, jusqu'à la prochaine heure. Elle a les cheveux coupés à la cisaille, un appareil dentaire, une Minerve et le bras en écharpe. Telle est Adèle Exarchopoulos dans l'accident de piano de Quentin Dupieux. Il et elle ont choisi de s'amuser avec son image à elle, l'une des actrices les plus en vue et les plus solaires du moment, à l'affiche d'un des grands succès de l'année passée, L'amour ouf. Dans l'accident de piano, Adèle Exarchopoulos a du succès. Elle est aussi très riche. Elle est influenceuse et cumule des clics en se malmenant devant une caméra. Un camion lui roule dessus, elle se tape le crâne avec un marteau. Son personnage est insensible à la douleur. L'accident de piano ne parle pas musique, mais capitalisme, absurdité du succès, avidité journalistique pour le scoop et l'exclu. Politique donc, mais aussi horreur, puisque le film est parfois gore, et fantasy. C'est ça, l'accident de piano. Adèle Exarchopoulos m'a donné rendez-vous un après-midi de juin. Il faisait beau et nous étions en terrasse, pas loin de la gare de l'Est.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Le train, il est à quelle heure?
Je crois qu'il faut qu'on soit là-bas pour 15h15, je crois, si je dis pas de bêtises, d'ici 30-40 minutes.
Ah ouais, ok. Faisons efficace alors.
Ok.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi.
Et pas très joyeux. Je vais pas chanter, hein.
Mais si.
Ah non, mais je suis catastrophique. Impossible. En plus sur ça.
Pour ce matin, Adèle Exarchopoulos a choisi la chanson des vieux amants de Brel.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol.
Pour moi, c'est une des plus grandes chansons d'amour de tous les temps. Après, une fois de plus, c'est dans ma projection de jeune femme. J'ai jamais vécu une histoire d'amour comme il l'a décrit sur des années où...
Bah, vous n'avez pas l'âge.
C'est vrai, j'ai pas l'âge. Mais dans ma projection de ce que c'est de tendre et de cruel, une longue histoire d'amour avec des concessions, des déceptions, des... Puis le vrai amour, quoi, sans te juger, sans t'appartenir, parce que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un âge où tu dépasses ça et que le... On va mourir ensemble, que toi et moi, et tu seras ma colombe. T'atteins quelque chose de beaucoup plus profond en termes de preuve d'amour et de juste accepter d'être toi-même en face de quelqu'un et qu'il le soit lui aussi, quoi. Ou elle aussi.
C'est assez romantique, quand même.
Moi, je suis maxi romantique.
Ah ouais?
Ouais. Enfin, je sais pas comment on décrit le romantisme, mais moi, j'aime l'amour. Pour moi, c'est une déclaration d'amour à l'amour, cette chanson. Moi, j'adore quand les gens me racontent leurs histoires d'amour. Je sais pas, je suis en scooter, je vois des gens s'embrasser ou sur le quai de la gare, j'adore. Je trouve que sans amour, de toute façon, il nous reste rien, en fait.
Comment vous l'avez découvert, cette chanson?
Je sais plus si c'est ma mère ou une copine.
C'est fort si c'est votre mère qui vous a fait écouter ça.
Elle est toujours avec mon père. C'est rare, mais elle l'est.
C'est ça que vous avez eu comme modèle?
Moi, j'aime beaucoup comment mes parents s'aiment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fatal sans jamais l'être. C'est-à-dire on est une équipe, on est une famille, un amour ultra familial. Et en même temps, tu ressens quelque chose d'amoureux chez eux. Enfin, comme quand t'es amoureux et que tu vois même pas ce qu'il y a autour, quoi. Parce que moi, des fois, je suis très proche de mon père, je lui pose la question, mais ça t'est déjà arrivé de... Il me dit, mais ça ne me traversera même pas l'esprit, on est une famille.
Vous admirez ça?
J'admire aussi les gens courageux qui partent après 20 ans de mariage parce qu'ils sont plus heureux. Je pense que tout acte d'amour est assez courageux, que ce soit de quitter, de pas retenir quelqu'un. Ce que j'admire, c'est les gens qui aiment sans jugement, quoi. Parce que je trouve ça quand même très dur.
Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège? dommage que vivre en paix pour des amants.
Bien. Qu'est-ce que ça a changé, l'amour ouf?
J'ai vu un film devenir comme un jeu d'enfant, mais pour une autre génération. C'est-à-dire que c'est la première fois que des fois on m'arrête uniquement pour me parler et me dire des choses où il n'y a rien de plus beau, quoi. Hier, j'ai regardé ce film avec mon mari, avec qui je suis depuis 15 ans, on a eu envie de faire un autre enfant. Putain, la cabine téléphonique, ça me rappelle tellement mon enfance. J'ai eu l'impression que ce film est rentré quand même dans le cœur des gens et des jeunes gens. Et ça m'a touché. Et puis moi, intimement, ça a été un tournage qui a été particulièrement magique parce que j'ai rarement vécu une telle ambiance sur un film. Raphaël Quenard, c'est devenu un ami, Zadie, François, c'est devenu des gens que je vois pas tous les jours, mais que je vois.
Et c'est facile de jouer avec ses amis? C'est plus simple que de jouer avec des gens qu'on connaît pas du tout?
Moi, je les connaissais pas très bien. Heureusement, parce que je pense que c'est beaucoup plus dur. Moi, par exemple, on s'est toujours posé la question avec une Leïla Bekti de se dire, mais mon Dieu, c'est tellement intime ce qui nous lie, c'est-à-dire la famille, les enfants, que demain on a fait la flamme ensemble, mais il y a quelque chose de tellement démesuré. Enfin, elle jouait Alexandra, une grosse dingue, jouait un gorille. Enfin, il y avait quelque chose où, du coup, ça ne touchait pas, quelque chose d'intime dans le jeu. Demain, on doit jouer ensemble, chose que je me souhaite. Je serais quand même très intimidée de me dire, attends, j'aurais l'impression de lui mentir, quoi. C'est très bizarre.
Est-ce que vous visualisez ce que vous allez jouer avant de le faire?
Non, c'est rare.
Alors, comment vous préparez?
Déjà, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez, alors que moi, je trouve que ça doit être limite obligatoire, mais moi, j'aime bien bosser avec des coachs, Daniel Ricourt, Daniel Marchaudon. C'est des gens avec qui tu vas faire plusieurs passes du scénario, tu vas le lire et qui vont être comme une thérapie de ton personnage, c'est-à-dire ils vont te donner aucune réponse, mais ils vont te poser énormément de questions. Et t'arrives avec ton personnage un peu armé parce que t'as traversé tout ce qu'il a traversé en remettant tout en question, et t'arrives le jour J, t'es libre, t'as juste besoin d'être au présent et très disponible. Donc ça, je l'ai fait un peu trop tard, mais maintenant, je le fais beaucoup.
Pour quel rôle vous avez pris un coach, par exemple?
L'amour ouf. Ouais. En fait, l'amour ouf, justement, je l'ai découvert comme ça. C'est-à-dire que les deux jeunes, Mallory et Malik, sont allés voir Daniel Marchaudon. Qui est coach. Et j'ai dit, bah vas-y, Malo, viens, je viens avec toi, parce qu'en vrai, on joue la même personne. Et je lui ai dit, mais je peux venir te voir seul? Il m'a dit oui. Et j'ai dit, bah vas-y, je vais essayer. Et j'ai adoré. Je peux avoir un deuxième verre, s'il vous plaît, madame?
Ouais.
Merci beaucoup, mademoiselle.
Et le film de votre génération à vous, c'est quoi?
De ma génération, c'est-à-dire que j'ai regardé énormément de fois, il y en a beaucoup. Hein. Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, Jeux d'enfants, Marion Cotillard, Guillaume Canet. Matrix, il m'a... Ouais, il m'a perturbé. Je le regarde chaque année, Matrix. Je trouve ce film immensément riche spirituellement, c'est-à-dire que ça m'avait fait un choc de me dire quel est le parallèle entre le monde qu'on m'impose, l'illusion qu'on a tous et qui en plus dans cette génération est assez plus poussée, l'intelligence artificielle, les applications, enfin il y a quelque chose qui va très vite, tout se consomme vite, et la vraie liberté, c'est-à-dire pas ce qu'on t'impose, comment tu dois être, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est pas à la mode, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, comment l'autre aimerait que tu le séduises, qu'est-ce que la société attend de toi, c'est quoi ton rapport au succès, c'est quoi ton rapport à l'ambition, c'est quoi ton rapport à l'argent.
Parce que vous êtes au cœur de ça quand même, de ce que
de la Matrix.
Bah de la Matrix, ouais.
Ouais, c'est vrai.
Du succès, de la notoriété, des modes, du regard des autres.
Ouais, mais...
de tout ce qu'on projette sur vous et justement de ce qu'on attend de vous, en fait.
Mais moi, mes amis, ils me le disent souvent. Ils me disent, si les gens, ils savaient... Mais en rigolant, de si les gens, ils te voyaient comment moi, je suis chez mes parents ou qu'est-ce que je fais le week-end. Fin... Mais quand je dis si les gens, ils savaient, c'est pas que je suis foncièrement une autre personne. C'est que... ils seraient peut-être déçus du niveau de simplicité, en fait, que finalement, on aspire tous à être dans nos vies. Je pense que les gens... T'as envie de choisir d'être acteur, mais tu choisis pas forcément d'être connu. Maintenant, ça fait partie du jeu, faut pas venir se plaindre. Mais je ne suis absolument pas celle qu'on voit en couverture de magazine. Et je mens en promotion, alors que je mentirai jamais quand je joue un rôle. Enfin, je mens en promotion, là on dirait que je viens de mentir pendant une heure. Non, mais ça m'arrive de ne pas dire entièrement ce que je pense, parce que j'ai la flemme que ce soit repris, que j'ai envie de m'éviter une polémique, ou que c'est aussi extrêmement bizarre d'être dans une position où tu t'adresses à des gens que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, avec lesquels tu peux pas débattre, qui vont... Ça nous est tous arrivé de qu'un journaliste il reprenne une phrase qu'on a dit, qu'il la détourne. Enfin, on a tous eu des petites, je pense, déceptions à quelques niveaux, de se dire « Waouh, c'est pas du tout le fond de ma pensée ». Mais oui, je suis complètement au cœur de cette matrix. Et d'ailleurs, il faut l'assumer aussi. C'est-à-dire que moi, je fais de la mode parce que ça me permet de faire des films comme Rien à foutre, où je me maquille moi-même dans les toilettes de l'aéroport et que c'est des petites économies. Bon, bah, à côté, si je peux m'amuser dans la mode et faire de l'argent alors que ce n'est pas ma passion mais qu'il y a une facilité, il faut l'assumer évidemment que c'est ce à quoi on joue. Enfin, en tout cas, moi.
Elle vient de Manchester et se fait appeler Freak Slug.
Adèle Exarchopoulos, Rebecca Manzoni.
Manzoni,
purée. Adèle Exarchopoulos, Rebecca Manzoni, sur Totemic. Adèle Exarchopoulos, Rebecca Manzoni, à Totemic, sur France Inter.
Est-ce que vous avez des tics de langage, vous ?
Je pense. Tu vois ce que je veux dire ? Bref. Genre, sûrement. Deux, trois trucs comme ça, ouais.
Est-ce que parfois, pour que le rôle, pour que les dialogues soient plus naturels, ou on a tendance à s'appuyer un peu là-dessus ?
En tout cas, il y a des gens chez qui tu peux absolument pas te permettre ça, et tant mieux, parce que sinon tu baignes dans une zone de confort qui s'éloigne de ton personnage en termes de diction et de tics de langage. Jeanne, par exemple, impossible, Jeanne Herry,
c'était pour « Je verrai toujours vos visages ».
Exactement. Et là, je refais un film avec elle, et tout de suite, elle m'a réannoncé, alors que je savais, ça m'avait marqué. Et elle avait raison à chaque fois, elle me disait si j'ai écrit une virgule, alors évidemment que s'il y a quelque chose qui me paraît moins juste au vu de la situation de mon personnage, bien sûr on en discute, ça reste collectif, mais elle écrit ses textes avec une... comme des respirations quoi, comme un cardiogramme, les virgules, les points, la ponctuation, tout est très précis, c'est vraiment pas au hasard. Quand je me réfugiais dans un bref ou quoi, elle disait non, c'est pas le texte, suis mon texte s'il te plaît. Et elle avait raison.
Ça tenait à un bref.
Parfois, ça tient un bref. Bah, bref, ça raconte quelque chose sur les gens, quand même.
Ça raconte quoi ?
J'en sais rien, mais l'éthique de langage en général, de dire tu vois ce que je veux dire, comme ce besoin d'être bien clair ou précis, bref, de balayer quelque chose comme si ça comptait pas. Sans psychologie de comptoir, en tout cas, il y a des personnages auxquels ça peut pas du tout coller, je pense. Par contre, moi, on vient souvent me dire, et je pourrais être très sincère, j'ai pas besoin qu'on me le dise, je sais que j'ai une diction qui peut être marquée, qui peut paraître rurale.
Rurale ?
Je sais pas comment on dit, mais trop moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à un peu essayer de catégoriser toutes les formes de diction. Sabrina Ouazani, Raphaël Quenard, moi, enfin, des gens qui ont leur propre manière de parler, ça devient vite un sujet. Mais je pense qu'on peut se permettre de parler comme ça dans la vie et essayer surtout de travailler ça quand il s'agit d'un rôle.
Ce soir, j'ai préparé des paupiettes de dinde avec quelques herbes de province, du fenouil et forcément des carottes bio et des pommes de terre qui viennent direct du jardin de la vieille d'à côté. Servez-vous! Merci!
C'était Adèle Exarchopoulos dans le rôle d'Agnès pour le film Mandibule de Quentin Dupieux. Elle y avait non seulement travaillé sa diction, mais aussi son volume sonore, puisqu'à la suite d'un accident de ski, le personnage qu'elle interprète ne peut pas faire autrement que de hurler. Pour l'accident de piano, du même Quentin Dupieux, Adèle Exarchopoulos parle tout le temps mâchoire serrée. Et en plus, elle porte un appareil dentaire qui altère son élocution. D'ailleurs, des morceaux de la musique du film composée par Dupieux lui-même s'intitulent « Mâchoire » ou « Dents ». La dernière, derrière ma voix par exemple, vous entendez « Dents ». Elle est bizarre cette phrase. Bref, la bouche est l'un des motifs de l'accident de piano. Dans le film, Adèle Exarchopoulos est Magali, une influenceuse riche et célèbre qui refuse de s'exprimer en public jusqu'à ce qu'une journaliste, Sandrine Kiberlin à l'écran, la fasse chanter. Elles finissent donc par se rencontrer et Magali explique la maladie dont elle souffre, une insensibilité congénitale à la douleur. Extrait de l'accident de piano de Quentin Dupieux avec Sandrine Kiberlin et Adèle Exarchopoulos.
C'est comme être aveugle, en fait. Sauf qu'au lieu de ne pas voir, on ressent pas la douleur physique. Je saurais pas l'expliquer autrement. Pour une définition plus précise, faudrait demander à un spécialiste.
Non, c'est très clair comme ça, je vous remercie. C'est joliment dit. Magali, autre chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que le jour de votre naissance, donc le 12 mars 1989... c'est aussi la date à laquelle Internet a été rendu accessible au public pour la première fois. Saviez-vous que vous étiez née le même jour qu'Internet ?
Non.
Ah ! Ouais, c'est incroyable, ça ! Moi, je pensais que vous étiez au courant. Mais si ça se trouve, je vais vous apprendre des choses sur vous.
Non. Non, impossible.
D'accord.
Ce personnage de Magali, dite Magaloche, dans l'accident de piano de Quentin Dupieux, c'est un monstre. D'une certaine façon.
Moi, je l'aime bien. Enfin, moi, ce que j'aime, et elle le dit d'ailleurs, c'est qu'elle assume toute sa noirceur, ce que les gens ne feront jamais dans la vie, son immoralité. En tout cas, jouer l'immoralité, c'est exceptionnel.
C'est la première fois, non ? À ce point.
À ce point, 100%. De dire des choses aussi horribles au visage des gens, ça m'était jamais arrivé dans n'importe quel personnage. Et il y a quelque chose de jouissif à quelqu'un qui assume toute sa méchanceté. Des choses qui nous passent par la tête, complètement absurdes dans la journée, qu'on n'oserait pas avouer à sa famille. Mais n'importe quoi, des trucs humains, des pulsions. Moi, des fois, je passe devant un restaurant, je me dis, ah, imagine, je retourne la table et juste, je continue, je m'en vais. Enfin, puis ça me passe en une seconde, mais des trucs très bizarres. Ou au contraire, je me lève, je lui fais un câlin et je pars. Enfin, on est tellement dans des sociétés très conventionnelles, etc., que de les jouer, en tout cas, c'est super. Après, oui, elle a un côté monstrueuse et profondément... Mais comme beaucoup de gens malheureux, je pense qu'elle est méchante parce qu'elle est malheureuse. Enfin, moi, je trouve que ça va souvent de pair. Comme les gens sur Twitter qui écrivent « Elle est moche, elle est grosse, elle est mince ». C'est souvent des gens malheureux et qui ont des poils sur le visage, on va pas se mentir. On va pas se mentir, je le dis souvent.
Finalement, Quentin Dupieux, c'est celui avec lequel vous avez le plus tourné. Ça fait 3 films.
Ouais, c'est vrai.
Qu'est-ce qui vous plaît dans sa façon de diriger les acteurs ?
C'est quelqu'un à qui il faut pas se formaliser, mais moi j'adore ça. Il est capable de dire après une prise, ah non, non, là on dirait un mauvais théâtre de boulevard, refais-la. Mais j'aime parce que c'est tellement précis qu'on se comprend. C'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision. On a un peu le même langage de charriade et de faire des choses sérieuses sans être sérieux. Et moi ça me plaît beaucoup, j'avoue.
Et le fait de dire « Non mais là c'est trop théâtre de boulevard », ça vous déstabilise pas ?
Pas du tout. Parce qu'il a raison. Enfin non, mais parce que des fois tu te rates, des fois tu la mets à côté, des fois... J'avoue que moi ça me déstabilise pas.
Qu'est-ce qui vous déstabilise alors ?
Par exemple, ce qui va beaucoup me déstabiliser, c'est rare, mais si je suis en train de jouer et que je pense à ce que je fais. Et là je me dis « Bon bah c'est que la scène elle est catastrophique ». Ben, c'est comme quand t'embrasses quelqu'un et que... Enfin, ça peut arriver la première fois de dire « Mon Dieu, j'espère qu'on ressent pareil, ou ah zut, je l'ai mordu, ou je sais pas, mais un truc où tu penses au moment pendant que t'es en train de le vivre et que du coup t'es pas trop dans un laisser-aller, quoi.
Mais alors, vous pensez à quoi ?
Quand je joue ?
Ouais.
J'écoute. Je crois que le jeu, c'est beaucoup l'écoute, quoi. Comme dans la vie, si t'écoutes pas ce qu'on te dit, ça peut pas être très sincère ce que tu réponds. En fait, souvent, je trouve quand on a un scénario, il y a toujours des choses où, dans notre projection, qui nous font peur. Waouh, cette scène, je vais galérer. Oh, c'est une immense scène d'émotion, je vais. Et souvent, finalement, ça s'avère être les scènes finalement les plus simples parce que tout y est et qu'il faut essayer de pas faire grand chose et de pas forcer, comme quand t'es ému et que t'as pas envie de l'être dans la rue, comme quand t'es ivre et que t'as pas envie de l'être devant les gens. Mais parfois, par contre, des scènes du quotidien ou banales, j'aurais pas un exemple précis en tête, mais c'est le rien qui est dur à faire.
Là, est-ce qu'il y avait des scènes qui vous faisaient peur pour l'accident piano ?
Quentin, quand j'arrive sur ces films, je me dis, bon Adèle, soit c'est un coup d'éclat, soit c'est une fin de carrière, mais amuse-toi parce que c'est peut-être le dernier film que tu vas faire.
À ce point-là ?
Franchement, ouais. Bah t'arrives, tu proposes quelque chose que tu vas proposer nulle part ailleurs, quelque chose qui est à la frontière de l'absurde. Quand en plus tu rajoutes une couche avec une élocution hyper bizarre et tout, tu te dis, ah, est-ce que les gens vont marcher avec moi, quoi ?
Et puis elle a une espèce de petit rire.
Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est dur pour elle de sourire. Je pense que c'est quelqu'un qui est profondément éteint et qui a des choses qui l'animent. C'est une femme qui... Son père l'a mis dans l'influence en faisant tourner des vidéos de sa maladie à tout le monde parce qu'elle se faisait mal et qu'elle se filmait en se faisant mal. C'est un peu l'histoire des Kardashians, sauf que c'est une sextape. Enfin, il y a quelque chose d'assez monstrueux dans le... Elle est accompagnée de Jérôme Commandeur, qui est exceptionnel, qui joue un agent véreux, qui est dans une course à l'argent de gourmandise, qui se fait plein de fric avec moi, mais qui du coup n'est jamais avec sa famille, m'utilise. Et Sandrine Bonner, qui joue une journaliste, parce que mon personnage n'a jamais donné d'interview. Je sais plus du tout pourquoi je décris tous les personnages, alors vous ne l'avez pas demandé, mais en tout cas...
C'est le flux de la promo, ouais, ça. Voilà. Hein,
mais pourtant, vous êtes une des premières.
C'est vrai ?
Ouais, on n'en fait pas beaucoup avec Quentin de la promo.
Ouais.
C'est pas l'amour ouf.
Parce que pour l'amour ouf, il y en avait beaucoup.
C'était de la propagande pour l'amour ouf. Mais non, on a eu du plaisir à le faire, mais ouais.
Je parlais du rire, en fait.
Ah oui, purée, c'est vrai. Le rire...
Est-ce que vous avez essayé différents trucs ?
Ouais, bien sûr.
Vous avez essayé quoi ?
Bah, plein de bizarreries, de... à des trucs plus aigus, à rire qu'avec les épaules silencieusement, à rire comme si elle éternuait... Mais pareil, il va me dire, ah non, c'est trop ça. Non. Ah purée, celui-là, il est très bien. Vas-y, essaye de le refaire. Mais en fait, c'est assez simple. Quand je dis on fait des choses sérieuses en n'étant pas sérieux, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon, déjà, c'est comme ça que je ressens le cinéma en général. Mais sur le plateau de Quentin, il y a quand même cette immense fantaisie qui prend toujours la place. Et en même temps, de faire des films assez profonds, finalement. Enfin, moi, je trouve que Mandibule, Magaloche, Magali s'appelle. Non, l'accident de piano. Waouh. C'est vraiment le début de la promo. C'est un de mes... Un de ses films les plus sombres et profonds, on revient un peu au Dain, etc., où il assume plus ses fins. Où... En fait, tout le monde a fini par m'utiliser et a contribué à créer ce monstre de capitalisme, de faire de l'argent vite, de... On devient des produits, mais comme nous, on peut trouver qu'on on peut frôler ça dans nos métiers.
C'est-à-dire ?
Bah, la promotion, la représentation, enfin, il y a quand même un masque. Je vois très peu de gens arriver sur le tapis rouge en étant naturel. Tu rentres quand même dans une forme de jeu. Que tu le veuilles ou non, après à toi de savoir si tu prends goût, à toi de savoir si pour quelle raison tu le fais, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du masque. Et dans ce métier en général, moi j'adore jouer, mais la célébrité c'est autre chose, les gens te fantasment un peu, quoi, dans le bon comme dans le mauvais.
Comment vous mettez ça à distance ? On a l'impression que vous le vivez super bien.
Alors, comme tout le monde, ça m'arrivait de taper mon nom, de lire des horreurs et de me dire waouh, c'est ça qu'on pense de moi.
Ah, c'est-à-dire d'être devant Google, de faire...
Mais tout le monde le fait. Alors, les gens qui vous diront non, je me suis jamais googlisé, sont des immenses menteurs. Tu le fais, après plein d'événements où t'as fait de la promo. Enfin, en fait, malheureusement, même si tu le fais pas, de toute façon, on va te l'envoyer. Donc, et d'un coup, je vais me dire, waouh, les gens pensent ça de moi, ou je renvoie cette image, donc t'as un truc bizarre. Mais après, ça dure 2 minutes et ça passe, dans le sens où... Voilà, il n'y a rien de méchant ou de méprisant, mais c'est juste que... Le monde virtuel comme ça, internet, etc., ça reste quand même une bande de lâches, souvent pas très jojo. Parce que ça nous arrive tous de se dire, ah, elle est pas jolie sa robe. Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça. Mais de là, prendre le temps de l'écrire, tu dois quand même baigner dans un ennui profond. Où... C'est compliqué quand même. Enfin, les Twitter, les mauvais commentaires. Donc il y a quelque chose où j'ai la bonne distance parce que je pense qu'il y a.
Ça vous atteint pas ?
Ça va m'atteindre 2 minutes à l'ego, mais ça a très vite passé. Heureusement, je n'ai pas passé mon après-midi sur « Attention, Alexa du 32 a dit que j'avais des grandes dents. » Ça fait 31 ans que j'ai des grandes dents, je ne l'ai pas découvert grâce à Alexia. Donc ça va. Mais par contre, c'est pour ça que ma vie, elle reste privée. C'est parce que si d'un coup, ça touche quelqu'un d'autre que moi, là, je me connais, ça, je vais vraiment, vraiment mal le prendre.
Il a décidé de mettre fin à sa carrière avec un album ultime qui vient de paraître, Damso, qui m'a demandé.
C'est moi, j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Je cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit, tu connais rien à la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix, dire repenser, repenser, repenser. Moi, je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le bleu. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà est-ce que vous l'aimez. Vous cette vie énorme qui m'a demandé ma permission de venir au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Les mauvais choix font que je déconne. Son bras qui fait le désespoir résonne. Tant d'innocents, tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines puis de confiance. Les conséquences de la méfiance saine, les cœurs mis en scène qui innovent. Qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey, la vie de rêve, la vie de...
Adèle Exarchopoulos est dans Totemic. Quelques dates avec quelques-uns des films dont il va être question dans la suite de la conversation. 2015, Les Anarchistes d'Elie Wajman, où elle interprète une anarchiste à la fin du 19e siècle. 2019, Sibylle de Justine Triet, où elle est une actrice dépressive. 2021, Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, où elle interprète une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Depuis vos débuts et le rôle qui vous a révélé, donc la vie d'Adèle, quel est le rôle qui fait que vous vous êtes affranchi enfin de ce personnage qui portait le même prénom que vous en plus?
Bah déjà, affranchi aux yeux des gens, je sais pas, parce que j'ai jamais pensé, mais moi personnellement, c'était très dur de retourner tourner après. Je me disais, mais je vais être rien sans ce fonctionnement qui te permet de tout naturaliser, c'est-à-dire sans marque au sol, sans texte, sans feuille de service, sans condition, dans quelque chose où chaque jour est une immense improvisation, quoi. Et dès que je suis allé à quelque chose de scolaire, notamment dans Les Anarchistes, je me suis dit waouh, je vais galérer, j'ai du travail en fait.
Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce film un peu, Les Anarchistes, parce que là on sort de La vie d'Adèle, donc très contemporain. Les Anarchistes, c'est un film où vous êtes en costume d'époque.
C'était horrible, c'était exceptionnel. J'ai rencontré des gens qui font partie de ma vie et des acteurs immenses. Émilie Depresac, Karim Leclou, Tahar Rahim, Swan Arlo, c'était vraiment... Mais moi, en tout cas, intimement, je me disais, mais qu'est-ce que... La scène, notamment, où je devais m'adresser à des gens... Et puis, ça...
La scène où vous faites un discours.
Ouais, oh là là, quelle cata. Par exemple, j'y ai pas pris de plaisir. Aujourd'hui, si je la réessayais, peut-être que je la travaillerais différemment et je prendrais du plaisir. Mais j'étais dans un truc d'illégitimité complet où je me disais, mais c'est catastrophique ce que t'es en train de faire. Et tout le monde te regarde.
Pourquoi vous disiez ça?
Parce que je pense que d'un coup, j'étais hors de ma zone de confort, en plus dans un système plus pédagogique, plus scolaire, enfin plus classique, avec une diction qui est très loin de moi, et où d'un coup, je me disais, voilà, j'ai pas assez travaillé pour me trouver suffisamment juste. Enfin, c'est pas une scène que je regarde et je me dis, ah, je suis fière, c'est bien. Bon, après, c'est très rare de se dire ça, voire quasi impossible, mais...
Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous le dire, quand même ? Dans une scène, vous dire, là, je suis contente, c'est vraiment bien.
Je me suis déjà dit, j'aurais pas pu mieux faire. Genre, je pense que c'est mon maximum. La scène au téléphone avec l'opérateur Orange dans Rien à foutre, c'était dur de la faire. J'étais au téléphone avec la réalisatrice, en plus on rigolait parce que ça m'ont inventé des noms d'abonnements, abonnement Lyon pour 4Go, abonnement Tic, enfin bref. C'est filmé un peu comme un documentaire, il y a des gens dans la rue, donc c'est toujours bah, comme dans la vie, très étrange de pleurer devant des gens. Enfin, je sais pas comment expliquer, en marchant, c'est un truc qui est... C'est vraiment que t'es au bout du rôle quand tu pleures dans les rues de Paris, on va pas se mentir. Souvent tu vas chez une amie, tu restes dans ton lit, quand t'es submergé dans le métro ou dans un lieu public, enfin moi en tout cas j'ai un truc, je sais pas si c'est de la pudeur ou de la bêtise, mais qui est très... Donc j'avais peur de cette scène, et cette scène je me suis dit, ah cool, je sais pas si j'aurais pu mieux faire, et le film où je me suis dit ça, c'est La vie d'Adèle. Mais parce que j'aurais pas pu mieux faire dans le sens où... Enfin, de toute façon, il n'y avait pas de scène, donc j'aurais pas pu l'amener ailleurs que ce qu'on a réussi à faire naître Léa et moi, quoi.
Mais Rien à foutre, justement, comme c'est, il y a un côté documentaire où c'est, on a l'impression que tout est naturel, ouais. On n'est pas dans la composition du tout. Ouais. Moi, je trouve que c'est ce rôle-là aussi qui vous a permis de vous affranchir.
Bah, ça me fait plaisir parce que c'est un de mes rôles préférés que j'ai joué. Enfin, c'est un des films dont je suis plus fier. Je trouve qu'un premier long métrage, évidemment, il y aura toujours des défauts et des maladresses, surtout dans un premier long, il y a quelque chose d'un peu gracieux et en même temps très fragile parfois. Mais franchement, vu comment on l'a fait, les conditions dans lesquelles... Enfin, moi, je l'aime beaucoup, ce film. J'avoue.
Pourquoi vous l'aimez à ce point ?
Ce que ça raconte, je le trouve intelligent. Cette errance, ce que ça raconte sur le monde low cost, sur le capitalisme, sans jamais vouloir le revendiquer. Enfin, je l'ai trouvé intelligent, en fait, le film. Mais c'est vrai que cette manière d'amener, je trouve que c'est là où l'art a une puissance immense. C'est que d'un coup, tu crées quelque chose de politique sans jamais tenter de le rendre politique, juste humain. Chose qui parle beaucoup plus à tout le monde que des gens en costume qui te disent des phrases où tu te sens bête alors que finalement ils n'ont pas dit grand chose de profond.
C'est pas prêcher les convaincus.
Ouais, exactement. C'est vrai. Je dirais pas mieux.
Un autre film dont j'aimerais qu'on parle, c'est Sibyl, de Justine Triet. Mmh. Parce que dans ce film-là, vous jouez une actrice.
Je veux pas faire porter à mon enfant le poids de mon échec, le rendre responsable de mes désillusions. Je veux pas qu'il puisse penser une seule seconde qu'il m'a empêché de faire quelque chose d'essentiel pour moi. Je préfère qu'il souffre de mon égoïsme que de mon sacrifice.
En l'occurrence, si vous avortez, il souffrira pas du tout.
Dans Sibyl de Justine Triet, Adèle Exarchopoulos et Margot, une jeune actrice enceinte du comédien avec qui elle s'apprête à tourner. Et le comédien en question est en couple avec la réalisatrice du film. Margot est au bord du désespoir et consulte Sibyl, qui est psy. Extrait avec Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira.
J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible.
Non, mais je vous juge pas. Simplement, quand vous m'avez appelé la première fois, vous m'avez dit « j'ai besoin de prendre une décision ».
Jouer une jeune actrice qui prend ce film-là comme celui qui va compter le plus. Quelque chose qui la sauve, vu qu'elle est complètement déprimée et suicidaire juste avant.
Ce rôle-là, il est arrivé à quel moment de votre vie, Sibyl ? On est en 2019.
À un moment où je me sens comme mon personnage, c'est-à-dire... c'est la première fois en casting que j'ai dit à quelqu'un « je le veux vraiment ton rôle ». Jamais j'aurais osé dire ça à quelqu'un avant, parce que déjà je trouve ça lourd. Je pense, je suis pas réalisatrice, mais qu'il y a quelque chose aussi qui s'explique pas, qui va avec ton personnage. Et je sentais un truc en commun avec cette fille de désespoir. J'ai envie de me reprouver que je suis capable, en fait.
Parce que c'est un moment où vous vous sentiez plus capable ?
Je venais d'accoucher, je prenais mon fils sur mes tournages. Je l'allaitais à Belgrade sur le film de Ralph Fiennes. Franchement, c'était un peu dur. Enfin, un peu dur. Toutes les mamans traversent ça et allaitent au travail. Hein. Mais je veux dire, il y avait quelque chose d'assez... J'étais jeune, j'avais 22 ans, j'étais sur un tournage. En même temps, j'essayais de trouver la bonne place entre les deux. Et j'avais pas travaillé pendant ma grossesse. Il y avait plein de films qui avaient sauté, mais c'était mon choix, donc c'était pas grave. Enfin, je pouvais pas les faire, j'étais pas assuré. Enfin, plein de films, j'abuse. 2-3, mais qui comptaient. Il y avait quelque chose où je me disais, waouh, est-ce que je suis encore capable d'être à la hauteur de certains rôles ou pas ? Et quand j'ai passé le casting, je me suis dit, vraiment, je lui ai dit pleine tête, je lui ai dit, j'aimerais vraiment avoir ce rôle, moi. Et je me rappelle, elle a explosé de rire, je me suis dit, j'espère que c'était pas une erreur de lui avoir dit.
Depuis vos débuts, depuis une quinzaine d'années maintenant, comment a changé votre regard sur votre métier? Est-ce qu'il a changé déjà?
Le sentiment n'a pas changé, c'est-à-dire que quand j'arrive sur un plateau, j'ai quand même un plaisir très enfantin. Et ça, je cherche toujours à le cultiver, de me dire, tiens, imagine, c'est ton dernier. Et puis un truc de privilégié, quoi, de faire ce que j'aime. J'en parle encore avec des amis ce week-end, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une passion dans la vie, quoi, que ce soit cuire des marrons, ouvrir un resto, ou faire du cinéma. Il y a quelque chose de très précieux de vivre de sa passion. Donc, sur un plateau, je garde la même sensation. Sur le business, non. J'ai beaucoup moins de naïveté. Je suis arrivée avec un gros film, avec beaucoup de polémiques. Très vite, j'ai compris que la forme compte plus que le fond, que ça peut être un milieu avec parfois des déviances, que les gens ne tiennent pas toujours leur parole, qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Mais tu peux que les prendre personnellement dans le travail. Enfin, c'est comme si je vous dis, ton boss, il dit quelque chose et il traite tout le monde comme ça, mais il te l'a dit à toi, c'est adressé. Donc forcément, si tu te sens rejeté ou mal aimé, c'est tu le prends personnellement. Mais il faut essayer de ne pas le faire, parce que ça reste un milieu où il y a aussi beaucoup d'ego, beaucoup de névrose, mais aussi beaucoup de gens heureux. Et en tout cas, moi, je sais que quand je suis sur un plateau, je me dis, je vois pas où, ce que je saurais faire d'autre avec autant de plaisir.
La toute dernière séquence de l'émission, c'est une photo.
Ah mais oui, c'est vrai, bien sûr.
Alors, d'habitude, c'est un Polaroid.
Ouais, je me rappelle.
Mais il est, il est mort.
Ok.
Ouais. Donc, est-ce que je peux faire une photo avec le portable?
Bien sûr.
Ok. Alors, voilà, il y a les amants, les vieux amants qui s'est remis en route, donc je vais arrêter. Voilà. Ok. Prête?
Je souris à plein dents.
Je crois qu'il y en a une où vous fermez les yeux. Ah, celle-là. Celle-là, ça va?
Ouais, très bien. Bah, de toute façon, bon. Hilarant. C'est... Un oignon.
Quoi?
Un oignon. Catastrophique, on dirait que je dors en rigolant. Celle que tu veux, bon, celle-là, on dirait que je suis ivre.
Non, je vais pas prendre celle-là, je vais pas prendre l'oignon. Ce qui est drôle, c'est que la dernière fois que je vous ai prise en photo...
C'est pizza, on m'en a beaucoup parlé.
Ah,
c'était
oui.
Ça?
Ouais, pizza à l'ananas.
Je m'en rappelle. Jamais de la prendre non plus.
Donc ce sera celle-là.
Avec plaisir.
Pas prêter, rien du tout, ça ira.
Oui, oui, bah de toute façon, c'est ma tête, hein.
C'est quoi votre tatouage, là?
C'est mon ange. Non, mais je les regrette tous.
J'en les
ai
tatouages?
Oui, catastrophique. J'en ai un roumain sur la côte.
En roumain?
Ouais. Parce que j'adore, je faisais un voyage avec ma meilleure amie d'enfance en Roumanie. Et donc, c'est une déclaration d'amitié, quoi. Il y a écrit pour toi un milieu deux fois, mais en roumain. Pentru tine de omie et de or. Là, il y a écrit mon ange pour ma cousine tunisienne. Et bon, alors, le pire, c'est celui dans le dos, j'ai honte. C'est une catastrophe. C'est un dessin old school que j'ai fait à Bangkok à 15 ans. Enfin, catastrophique. Je déconseille les tatouages, moi. Je serais tellement plus joli un corps nu. Après, c'est très subjectif, hein, mais si c'est à refaire, je ne le referai pas.
Merci beaucoup, Adèle Exarchopoulos.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Adèle Exarchopoulos est à l'affiche de L'accident de piano de Quentin Dupieux avec Sandrine Kilberlin et Jérôme Commandeur. Le film est en salle mercredi prochain. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode de Totemic avec Cédric Diallo aujourd'hui, Perrine Malinge programme nos invités, Célestine Babinet et Ilinka Negulesco ont préparé l'émission et JB Audibert choisit nos disques.